J'ai beaucoup dans le cœur ce que Dieu dans ces jours, de parler de ce que Dieu a fait dans ces jours. Et je l'ai dit ici aussi la dernière fois à Zurich, le dimanche dernier, j'ai touché brièvement cette pensée que pour Dieu, il y a des jours particuliers, des expériences particulières, des événements particuliers, et aussi dans notre vie, cela, des choses comme ça existeront, des jours particuliers, des expériences particulières. Et nous avons lu ce passage de Josué, chapitre 10, très connu de tous, et je voudrais, pour que nous soyons fortifiés dans la foi, c'est peut-être que nous sommes ici aujourd'hui, pour être fortifiés dans la foi, pour être consolés, pour être relevés, encouragés, c'est peut-être que nous sommes ici. Et rien est adéquat rien n'est plus adéquat que de nous repasser dans le cœur ce que Dieu a fait pour nous et nous a légué comme témoignage. Ici dans Josué, le chapitre 10, il est écrit au verset 14. Il n'y a pas eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni depuis, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel a combattu pour Israël. Nous avons touché ce point, il s'agit que le peuple de Dieu ne soit pas seulement introduit dans le pays de la promesse, mais entièrement en possession de lui. Et parce que Josué et tout le peuple d'Israël croyaient les promesses de Dieu pour l'heure et agissaient en conséquence, Dieu pouvait être avec eux. Dieu est avec ceux qui croient sa parole, qui reçoivent ses promesses et qui ne restent pas assis ou bien qui ne s'arrêtent pas, mais qui se mettent en chemin pour mettre leur foi en pratique. Et c'est avec eux que Dieu est, c'est eux que Dieu soutient et que Dieu aide. Et pour souligner cela, nous devons lire le verset 12. Dans Josué 12, verset 12, dans Josué 10, verset 12, il est écrit, « Le jour où l'Éternel livra les Amorites aux Israélites, Josué pria l'Éternel et cria à la face des Israélites, « Soleil, arrête-toi à Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune aussi. Ce n'est pas un miracle qu'après, à la fin du verset 14, il soit écrit qu'un tel jour n'a pas existé ni avant ni depuis. Mais il n'est pas écrit qu'un tel jour ne viendra plus après. Mais il est dit ni depuis. Là où Dieu commence à agir, là où l'Église du Dieu vivant ose dans la foi entrer en promesse, en possession de toutes les promesses, entrer en elles, les posséder dans la foi, les expérimenter personnellement et les revendiquer le droit de les posséder, de les recevoir. Vous savez, il y a eu beaucoup de jours qui restent en mémoire particulièrement. L'un particulièrement des jours de Moïse, nous l'avons cité, mais cela est nécessaire de le répéter dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, ici il est écrit à partir du verset 14. Exode chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi éternelle pour vos descendants. Oh, quel jour cela était! Quel jour c'était? C'était un jour dans lequel Dieu le Seigneur avait confirmé ses promesses, accompli sa promesse et à bras forts, puissants, avait fait sortir Israël d'Égypte. Le jour dans lequel l'agneau fut immolé, l'agneau de la Pâque fut immolé et le sang fut appliqué sur les linteaux des portes, un jour de rédemption, de délivrance, de victoire et de puissance, de la manifestation de la puissance du Dieu vivant. Un jour très exceptionnel. Et ce jour devait être conservé en souvenir pour tout le peuple d'Israël, pour toujours, parce que le Seigneur, en ce jour, avait été passé en épargnant son peuple, car il avait dit que quand je verrai le sang sur les linteaux de vos portes appliqué, alors je passerai en vous épargnant. La Pâque veut dire passer, car Dieu est passé en les épargnant, en épargnant ceux qui ont immolé l'agneau et ont appliqué le sang sous les linteaux des portes, dans l'obéissance. En un tel jour, aussi un tel jour, n'est-ce pas, n'a pas existé auparavant et depuis, dans lequel le Seigneur a manifesté un tel exode, délivrer son peuple d'Égypte. Dans Exode 13, verset 2, il est écrit: Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Particulièrement ici, ce mot, souvenez-vous de ce jour. Je pense, dans ce contexte, à beaucoup d'autres jours. Mais justement, cette parole nous laisse penser à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Car aussi, à cet événement, le Seigneur, dans Matthieu 26, a exprimé ses paroles. Faites cela en mémoire de moi. Il y a eu un jour qui n'avait pas été avant ni après. Ce jour dans lequel Christ, le Fils de Dieu, fut crucifié. Et ce jour où il a racheté son Église, versé son sang pour pouvoir nous épargner. La colère de Dieu, nous aurait tous rattrapés, mais elle ne peut plus nous frapper parce que Dieu voit le sang qui a coulé pour nous. Et là, il ne peut que nous faire grâce si nous acceptons ce sang. C'était le jour, le grand jour de réconciliation, qui déjà dans tout l'Ancien Testament est mentionné qu'il viendrait. Déjà une fois par an, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait dans le lieu très saint avec le sang, avec du sang. Et ça aussi, c'était un jour particulier. Il a apporté l'expiation pour lui et pour le peuple. Mais ensuite vint le jour dans lequel l'agneau de Dieu fut immolé, sacrifié. Et le souverain sacrificateur, notre Seigneur, a apporté ce sacrifice lui-même. Ne vous brisez pas la tête en ce qui concerne ces choses, parce qu'en même temps, il était les deux. L'agneau qui a été sacrifié et le souverain sacrificateur qui avait apporté le sacrifice. Sur les choses divines, aucun homme n'a besoin de se briser la tête Ça suffit si nous les croyons et de tout notre cœur les acceptons. Car Dieu a d'une manière merveilleuse ordonné toutes choses. Il est roi, il peut être roi, sacrificateur, prophète, il peut être avocat et médiateur, il peut être agneau et souverain sacrificateur, il peut être tout. Il peut se révéler comme et quand il veut. Et alors il dit, heureux ceux qui ne sortent pas en moi. Il y a eu des jours merveilleux. Si aujourd'hui nous demandions, nous pouvions demander à Abraham dans sa vie ce qui était la chose la plus importante, si rapidement il saurait tout de suite et il pourrait raconter ce qui s'est passé ce jour, alors que vers midi il était sous les arbres assis et que trois hommes vinrent à lui et les deux sont ensuite allés à Sodome. Mais le Seigneur est resté avec lui, Abraham, et lui a dit, et lui a parlé, « Comment est-ce que je peux conserver caché devant Abraham ce que j'ai résolu de faire ? Si nous demandions à Moïse, il parlerait aussi de comment est-ce que le Seigneur lui est apparu dans le buisson ardent et lui a dit du buisson, et comment est-ce que il lui a parlé du buisson et comment est-ce qu'il a ôté ses sandales. Si nous demandions à Jacob, il pourrait nous parler de ce jour dans lequel il a combattu avec le Seigneur, avec l'ange, jusqu'au prochain matin, jusqu'à que le soleil se soit levé pour lui. Si nous voulions demander aux hommes de Dieu sur des jours particuliers dans leur vie, alors ils sauront nous raconter beaucoup de choses. J'ose même dire que nous aussi, nous avons plusieurs choses à raconter. Nous aurions aussi plusieurs choses à raconter de ce qui, comme jour particulier, aussi dans ta vie et dans nos vies, il y a eu des jours particuliers. On n'a pas besoin de regarder avec jalousie, avec envie aux autres, mais nous-mêmes, nous pouvons, n'est-ce pas, rendre témoignage et énumérer les bénédictions que nous avons reçues du Seigneur et les expériences que nous avons eues, comme ce cantique dit. Compte ce que le Seigneur, le bien que le Seigneur t'a fait et qui te rencontre sur ton chemin. Et tu reconnaîtras comme riche tu es. Mes pensées vont toujours plus à l'histoire du salut que aux expériences particulières dans la vie des croyants. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont eu des expériences de manière qui était très personnel, mais aussi ils ont eu des expériences qui étaient en relation avec le dessein du salut de Dieu. Nous pensons par exemple déjà, comme déjà mentionné, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Nous pensons à Moïse, nous pensons à Josué, comme est-ce que les choses ont été pour lui en ce jour, alors que subitement quelqu'un se tenait devant lui, habillé en guerre, en armure, et il lui demande, est-ce que tu es l'un des nôtres ou bien tu es des ennemis? Et Josué lui a dit, et il a dit à Josué, pardon, je suis le général de l'armée de l'Éternel, le commandant. Oh, quel jour ça a été pour Josué. Il savait alors que c'est le Seigneur qui est avec lui. Et en ce jour où le combat sur les cinq rois qui s'étaient mis ensemble, il n'était pas terminé. Josué avait besoin de temps et le soleil était en train de se coucher. Et le soleil, la lune avait déjà apparu. Et ce n'est pas toujours que la lune apparaît seulement après que le soleil se soit couché. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Josué avait besoin de temps et ça pouvait être seulement possible que le jour qui reste jour, sinon les ennemis auraient pu s'arranger encore pour attaquer Israël. Alors Josué a regardé vers le ciel et il a dit, soleil, arrête-toi. Et lune, arrête-toi. Reste là, reste là. Et cela a eu lieu tel qu'il a prononcé. Alors nous lisons la Sainte Écriture, comme nous venons de le faire, que un tel jour n'a existé ni avant ni depuis. Et là, je peux vous dire quelque chose. Frère Branham, en répétant, a dit quand il parlait du temps de Josué, il a mis une relation avec l'Éphèse, avec l'église d'Éphèse. Et il a parlé de cette église qui n'a pas été réprimandée, mais qui simplement, à qui les choses divines avaient été accordées, les expériences spirituelles. Il a souligné et relevé cela et parle de ce que l'église, quoique maintenant nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, mais malgré tout, nous, l'église de l'Odyssée vivra une condition semblable à celle qui était trouvée dans l'église d'Éphèse. Peut-être que ce ne sera pas la suivante, mais l'autre, ces choses seront écrites dans cette brochure qu'on va éditer. Malgré l'état de l'Odyssée, Dieu aura un peuple, aura une église épouse qu'il appellera à sortir dans cet âge, qui n'est pas tiède et paresseuse et qui ne marche pas dans ses propres voies, mais qui est plein de feu en esprit, prêt, qui sera plein de feu dans l'esprit, prêt à servir le Seigneur et marchant sur les voies de l'Éternel. Et Dieu se confessera à cette église. Comme du temps de Josué, Josué a prononcé la parole et que ce qu'il a prononcé s'est accompli. C'est ainsi que la promesse, la parole parlée est aussi pour ces jours dans lesquels nous sommes. Je porte cela profondément dans mon cœur et je suis convaincu que Dieu ne fait pas seulement des paroles. Nous faisons parfois beaucoup de paroles, des paroles inutiles. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui serait inutile et qui restera sans s'accomplir. Non. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplira et cela s'accomplira. Cela arrivera. Si nous passions au Nouveau Testament, nous trouverions aussi plusieurs personnes qui pourraient nous raconter ce qu'ils ont ressenti dans les jours dans lesquels ils ont rencontré le Seigneur personnellement. Vous connaissez l'histoire de Pierre, l'histoire de Nathanaël, nous connaissons beaucoup qui avaient rencontré le Seigneur. Et ce sont des jours qui n'ont sûrement pas oublié. Ensuite, nous souvenons aussi du jour où le Seigneur a rencontré un Saul sur le chemin de Damas. Dans cette lumière brillante, dans le jour, je crois que c'est écrit qu'elle était plus claire que le soleil, plus brillante que le soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait reçu un mandat divin, une mission divine, un ordre divin, un appel, un mandat, un envoi, quelque chose qui dépassait tout ce qui était à entendre jusqu'à ce moment, avant Paul. Et dans une prédication de Frère Branham, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, la prédication numéro 10, le lever du soleil en allemand. Et là, Frère Branham se réfère à ce grand événement, à l'apparition de la nuée surnaturelle. Et il avait d'abord tenu la photo de cette manière parce qu'elle avait été publiée comme ça dans le magazine scientifique et le magazine Le Live. Et c'est ainsi que cela avait été donné. Alors, Frère Branham a regardé, il regardait, et subitement il ne voit rien. Il ne voyait rien. Et subitement une voix lui a parlé dans son cœur. Il lui a parlé, il lui a dit, tourne la photo vers la droite. Et c'est quand il a fait, je voudrais spécialement lire quelque chose là-dessus. Il dit ici, à la page 1, dans la brochure, le lever du soleil. J'aimerais attirer votre attention sur une photo prise par un appareil photo il y a quelques temps. J'ai eu une vision ici dans la chapelle que je devais quitter l'Indiana et aller en Arizona où je rencontrerai 7 anges en forme de pyramide. Il vit la vision alors qu'il était encore à Jeffersonville, Dieu lui avait annoncé, lui avait montré ce qui allait arriver. Et maintenant, cela est arrivé. Il a expérimenté, il a vécu, pas seulement expérimenté, mais pas seulement vécu, mais plusieurs centaines de personnes ont vu cette nuée surnaturelle. Ils l'ont prise en photo, ils étaient stupéfaits. Ils ne savaient pas ce que cette nuée signifiait. Et jusqu'à aujourd'hui, encore beaucoup ne savent pas. Frère Branham avait été enveloppé dans cette nuée, directement avait été pris dans cette nuée. Et il a reçu un ordre spécial. Je lis, je continue. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et quand je me suis tenu là-bas plus tard, j'ai pensé que la fin de ma vie était arrivée et que personne ne pourrait résister à cette explosion. Il veut dire par là, il veut parler à cette expérience et je peux le suivre, je peux le comprendre. Une expérience surnaturelle. Pas une sensation, pas tressaillir de joie, exalté dans l'esprit, tout ça, c'est merveilleux. Mais ce dont nous parlons, ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons ici. Ici, ce sont des expressions de joie dans le Seigneur que nous recevons. Mais ici, une expérience directe, surnaturelle, dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait différent. Là, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de louange. Là, il y a la crainte sainte. On peut, 2-3 jours après cette expérience, ne même plus marcher correctement. Qu'est-ce qui s'était passé avec Daniel? Il avait eu une seule vision. Et 2-3 jours, il est resté. Il allait très mal. Il y en a qui disent qu'ils ont expérimenté Dieu. Et après, ils sautaient court. Ils ont expérimenté les bénédictions de Dieu. Et le résultat de la bénédiction a laissé en eux la joie et la paix et tout. Mais une expérience directe, surnaturelle, c'est quelque chose de très différent. Et ici, il est dit encore, puis un matin comme celui-ci à Sabino Canyon, alors que j'étais en prière, une épée a été placée dans ma main. Et il a été dit, ceci est la parole, l'épée de la parole. Quelle expérience merveilleuse. Pas seulement que la nuée est descendue, il mentionne déjà la deuxième expérience en relation avec l'épée, mais je continue à lire en ce qui concerne encore la première expérience et ce qu'il dit plus loin en se référant à la première expérience. Là, il me parla et dit, les 7 sceaux seront ouverts. Et je voudrais en ce week-end, avec l'aide de Dieu, très clairement exposer que Frère Branham a désigné a parlé de l'apparition de la nuée, pas comme le Fils de l'homme, mais comme juge. Cette nuit a été désignée par Frère Branham comme juge, comme le juge. Et c'est très important que nous puissions faire la distinction des choses et parler de ces choses telles qu'elles se sont arrivées, telles qu'elles se sont passées et les classer dans l'ordre biblique. Seulement parce que les frères n'ont pas bien lu, ils disent, alors ça veut dire que le Seigneur est revenu et il est maintenant ici parmi nous. Non, cela a toute une autre signification. Là, il a annoncé l'ouverture des sceaux. Je continue à lire. Les 7 sceaux seront ouverts, les 7 mystères de la Bible qui avaient été cachés depuis la fondation du monde seront révélés. Tout devait être révélé. Et nous, qui ne sommes qu'un petit groupe humble par rapport au monde entier, avons ces bénédictions maintenant pour profiter et expérimenter ces mystères sur le mariage et le divorce, la semence du serpent, toutes les diverses questions. Toutes ces différentes questions nous ont été pleinement révélées, non par un homme, mais par Dieu lui-même. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Les opinions humaines, nous les avons eues et entendues depuis des années. Pas humaines, entendues depuis des années. Des interprétations aussi humaines, depuis des années. Et tout ce qui a été proposé et expliqué. Mais maintenant, tous ces sujets-là, toutes ces questions sans réponse ont été répondues de manière contraignante de la part de Dieu. Et pas une seule réponse est sortie au-delà du cadre des Écritures. Amen. Ça, c'est pour moi très important. Dieu va toujours rester dans le cadre, dans les limites de sa parole, agir et parler dans le cadre de sa parole. Car si nous sortons au-delà de la limite des Écritures, du témoignage des Écritures, alors ce n'est pas de Dieu. Si quelque chose sort des Écritures, ce n'est pas de Dieu. Dieu est lié à sa parole. Ici, nous avons un absolu, un fondement qui n'a pas besoin d'être agrandi et n'a pas besoin d'être expliqué par les hommes. Comme frère Paul a dit, j'ai fondé le fondement, j'ai placé le fondement et aucun autre fondement peut être placé, posé en dehors de celui qui est déjà posé. Mais que chacun fasse attention à la manière sur laquelle, à la manière à laquelle il bâtit sur ce fondement déjà posé. Le fondement est là. Mais maintenant, il faut seulement qu'il soit bien bâti là-dessus. Ici, Frère Branham dit très clairement, cela n'a été révélé pas par un homme, pleinement révélé pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Cela me plaît. Une réponse contraignante de la part de Dieu, fondée dans la parole de Dieu, et trouve sa confirmation dans les Écritures. Dieu, aujourd'hui, ne peut pas dire quelque chose d'autre que ce qu'il a déjà dit il y a 2000 ans, ou bien 4000 ans, ou bien 6000 ans. Est-ce que Dieu peut grandir en connaissance? Est-ce qu'il peut changer le sens de sa parole? Que cela soit loin. Dieu est véritable. Et sa parole est éternellement vraie. Le ciel et la terre passeront avec toutes les opinions humaines, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ensuite, il est écrit ici encore dans la citation, qui a ouvert ces sept mystères, y compris ce qu'était l'Église, comment elle était en Christ au commencement et comment elle sera révélée dans les derniers jours. Tout a été résumé en Christ, rassemblé en Christ en tant que comme la tête, mais il doit se manifester dans son corps, car la tête sans le corps n'est pas complète. Nous allons ensemble, le corps selon 1 Corinthiens 12 et aussi dans Colossiens 1 est décrit comme l'Église. Ensuite, dans la partie plus loin ici, vous vous souvenez quand cette vision est venue, je prêchais sur le sujet de l'Apocalypse où Jésus est décrit comme les anciens juges. Écoutez bien, comme où Jésus est décrit comme les anciens juges. Dans Apocalypse 1, c'était lorsque nous sommes entrés dans les âges de l'Église, avant que les sept sceaux ne soient ouverts, là, le Christ a les cheveux blancs comme de la laine. Et je vous ai expliqué, décrit, que lorsque les anciens juges anglais se rendaient au tribunal et devaient prêter serment et recevoir la plus haute autorité, ils portaient une perruque blanche sur la tête, un signe de leur plus haute autorité. C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Ce que frère Branham ici décrit et explique est très nécessaire pour comprendre. Mais pour nous, il s'agit très spécialement de ce que ici il parle de l'apparition du Seigneur le 28 février 1963, courtement avant le coucher du soleil. Et ici, il dit, avant que je vis cette vision, j'avais prêché sur Apocalypse 1. Et j'avais décrit Christ comme juge. Et ensuite, il a tiré la comparaison avec les anciens juges anglais qui avaient reçu une perruque blanche sur la tête quand ils recevaient la plus haute autorité. Et par cela, en signe de leur plus haute autorité, par cette perruque blanche. Et frère Branham a ici voulu insister là-dessus. Et il dit en continuant, si vous retournez l'image, je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous retournez l'image et la regardez, vous pouvez voir Christ probablement même de là dans l'auditoire. Vous voyez, c'est Christ. Vous voyez, ses yeux regarde là. C'est aussi parfait que possible. Il porte les cheveux blancs de la plus haute divinité et du plus haut juge de tous les cieux et de la terre. Je dois souligner cela, relever cela, car le temps est là où nous devons pas seulement dans le sérieux sonder tout ce qui a été exposé et un peu sonder tout ce qui a été enseigné et exposé, mais nous devons recevoir la clarté totale, entière, sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en relation avec l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et tout ce que nous avons reçu de Dieu qui est en relation avec son œuvre dans ce temps. Et je crois que si nous n'avons pas encore cette clarté totale, Dieu nous l'accordera. Il ne va pas nous laisser dans l'incertitude, bien au contraire, concernant ces choses. Il nous accordera la clarté nécessaire par la vérité. Pas par des interprétations, mais par la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Et nous voyons dans le prophète Daniel, alors que Dieu le Seigneur est montré sur son siège de juge, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, et nous voyons notre Seigneur à qui tout jugement a été remis dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Ses cheveux sont blancs comme la neige, comme la laine, et son visage brille comme le soleil. Là-bas, il est bien décrit dans Apocalypse chapitre 1. Donc, cet événement n'était pas le retour du Seigneur comme fils de l'homme pour ici, maintenant, quelque part, dire bonjour à quelqu'un. Non, non. À cela était lié quelque chose de très particulier. Et écoutez ce que je vais dire. Là-bas, comme juge, de manière surnaturelle, il s'est révélé pour tous ceux qui depuis ce temps ont écouté la parole révélée, les juger par rapport à cette parole révélée qu'ils ont reçue. Car depuis ce temps de son apparition, personne n'a le droit de dire « je pense, je veux dire ». Non, depuis ce jour, le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement ne veut pas toujours dire condamné, mais le jugement veut dire aussi éclaircir, donner des réponses sur les choses sur lesquelles les gens se disputent, accorder la clarté sur sa parole. Est-ce que Dieu n'a pas fait tout ça dans son église? Il a fait. Et nous pouvons être reconnaissants. Un jugement ne veut pas seulement dire une condamnation. Nous sommes reconnaissants de ce que du temps de la grâce, n'est-ce pas, dans le temps de la grâce, le jugement commence dans la maison de Dieu. Mais pour les autres, le jugement commencera quand le temps de la grâce sera passé. Alors, qu'est-ce qui se passera pour eux? Si le juge ne peut à peine être sauvé, où restera alors l'impie et le pécheur? Tel que c'est écrit dans 1 Pierre 4. Ici, dans cette nuée, écoutez-vous tous les peuples, et particulièrement toi, peuple de Dieu. Ici, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a montré dans sa dernière autorité, comme le juge unique, il voulait dire, ce que j'ai prononcé, cela reste valable. Ma parole est comme un jugement prononcé. Et ce que j'ai dit est mon dernier mot. Avec cela, le procès verbal vient à sa fin. La plus personne peut apporter, exposer encore quelque chose. Tous les arguments sont terminés, sont finis. Là, on pourrait dire que les avocats ont été renvoyés et les procureurs aussi. Tous ces religieux qui pensent s'asseoir, avoir encore le droit de s'asseoir sur le banc. Tout cela non plus ne sont plus à voir. Ici, nous ne voyons qu'un seul. Et c'est la plus haute autorité. C'est le juge lui-même. Je vous dis, depuis l'ouverture des sceaux, le Seigneur, en chaque point qui était encore resté sans clarté, sur lequel on pouvait encore se disputer, le Seigneur, depuis l'ouverture des sceaux, a prononcé la parole contraignante pour tous. On a donné la signification pour tous. Le procès est terminé et ce qu'il a dit est valable. Ce qu'il a décidé est valable. C'est ainsi et les choses restent ainsi. Là, personne ne pourra se renvoyer. Je dois vous le dire, cette chose me pénètre. La signification de cela me pénètre jusqu'à dans les os. Cela semble pour moi comme si le Seigneur, jusqu'à là, a laissé marcher chacun dans ses voies, dans ses pensées, dans ses opinions, dans ses interprétations, dans ses opinions. Il les a même bénis de toute manière, malgré leur propre façon de voir. Ça ne peut pas le disputer, mais il a placé un jour, il fixait un jour. Et parce que nous sommes en train justement de parler de ça, qu'il y a eu des jours particuliers, des expériences particulières, alors nous pouvons dire aujourd'hui que aussi ce jour était un jour particulier dans l'histoire du salut. Un jour qui devrait nous apporter à le remarquer, à s'en souvenir. Un jour qui veut nous faire comprendre qu'ici ce ne sont pas des hommes qui se rencontrent pour exprimer leur opinion sur la parole de Dieu, mais un jour où le Seigneur, en tant que rédempteur, en tant que tout ce qui est, mais ensuite comme juge, s'est montré, s'est fait voir pour nous laisser savoir. Avec vos opinions, vous ne pouvez plus continuer à subsister. Ici, parle celui qui a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Tout ce qui a été dit depuis ce jour, je vous demande de vous soumettre de tout votre cœur, de vous humilier sous la main puissante de Dieu et ne contredisez pas en aucun prix la parole de Dieu révélée. J'ai vu des hommes, ils existeront toujours, qui contredisent, qui se détournent et passent à côté de ce que le Seigneur a dit et ils cherchent même des versets bibliques comme si Dieu ne connaissait pas sa propre parole. Est-ce que Dieu ne connaît pas sa propre parole? Que il pourrait dire à tous ces gens qui se font passer pour des avocats et des procureurs et pour toutes sortes de je ne sais pas quoi heures. Est-ce que Dieu ne connaît pas sa propre parole? Est-ce que nous devons faire des recherches pour lire ce que Dieu a dit ou bien laisser écrire? Que cela soit loin de nous. Non. L'heure est arrivée dans laquelle, avec tout le sérieux qui est lié avec ce qui a été dit depuis ce temps, depuis le jour de l'ouverture des sceaux, et qui est lié au peuple de Dieu, Cela doit être dit et mis en lumière. Personne ne peut l'ouverture des sceaux a le droit d'avoir encore ses propres pensées sur la parole de Dieu et de les transmettre aux autres. Il a à sonder, à lire et de tout son cœur croire ce que Dieu le Seigneur, comme la plus haute autorité, a dit. Moi, j'ai rencontré des hommes. Ils parlent du message. Tel qu'ils parlent, un parle plus que nous tous rassemblés. Mais quand ça vient à certaines choses à parler, ils ne sont plus là. Alors ils pensent, soit Frère Branham ne l'a pas lu, il n'a pas fait attention à cette écriture. Ah, s'il avait dit aussi ce qui est écrit là, moi j'ose encore le dire pour souligner. Est-ce que Dieu ne connaît pas sa propre parole? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il a laissé écrire par les prophètes et les apôtres? Il le sait. Dieu sait aussi ce qu'il a dit comme dernier mot, ce qu'il a dit comme dernier mot et contraignant et révélé pour l'Église de Dieu, pour son Église. Et je sais que cela vous concerne particulièrement, bien-aimées sœurs, mais que Dieu soit remercié pour toutes nos sœurs qui peuvent se soumettre sous la main puissante de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour vous, nos sœurs, de tout notre cœur. Dieu a des pensées de paix avec nous tous. Quand il corrige, alors c'est seulement parce qu'il nous aime, oui ou non. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Je lis ça encore une fois. Il porte les cheveux blancs de la plus haute divinité et le juge de tous les cieux et de la terre. Je saute encore cela ici pour souligner à la page 30. Je vais à la page 33 dans cette prédication en allemand. Le lever du soleil ici, Frère Branham dit à la page 33. Il est celui qui a ouvert les sceaux. Il est le contenu de ces sceaux. Car toute la parole de Dieu est Christ. Et Christ est le mystère des sceaux ouverts. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ouverture de ces sceaux? La révélation de Christ. Du Christ. Et ces sept anges représentent les sept âges qui s'achèvent, les sept âges de l'Église qui s'achèvent. Mais nous ne pouvions pas tout de suite le reconnaître. Mais ils ont fait cette photo. Ils ont pris cette photo. Ce n'est pas nous qui l'avons prise. Il est là, comme la plus haute autorité, le plus haut juge, et montre qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle constatation merveilleuse. Aussi pour moi et pour nous. Que vous l'accepterez ou pas, mais depuis seulement quelques jours, l'Esprit de Dieu a commencé dans mon cœur à agir. Vous savez, j'ai fait cette visite aux États-Unis, j'ai écouté ceci, écouté cela là-bas, et je savais que leurs exposés ne sont pas vrais, mais je voulais être sûr. Je ne voulais pas argumenter. Je voulais pouvoir mettre ma main sur la chose et pouvoir dire, ici, il est écrit. C'était pour moi une détresse intérieure, et l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Je suis tellement reconnaissant, tant reconnaissant de ce que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ne se révèle pas seulement ou bien n'annonce pas seulement quelque chose. Mais toutes ces choses-là, il les classe dans l'ordre biblique, dans le contexte correct. N'êtes-vous pas reconnaissant pour ça? À quoi est-ce que nous sert le message puissant de Dieu? Si les choses ne sont pas tous ordonnées, classées dans leur place, là où elles classées dans l'ordre biblique, à leur place, là où elles sont dans le contexte juste. Alors là, nous voyons le Seigneur se révéler, enveloppé de cette nuée céleste dans laquelle se trouvaient des anges. Il se montre comme juge, et frère Branham dit comme signe que les âges des églises vont vers leur fin, s'achèvent. Un signe que Dieu fait commencer le jugement, pas la condamnation, mais une jurisprudence, une justice, la vérité. Rendre des choses justes dans leur contexte, ce qui n'était pas compris est montré dans son sens. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on va à un procès verbal, alors il y a certaines choses qui sont exposées. Il y a une dispute sur une chose. L'un est de cette opinion et l'autre est d'une autre opinion sur la même chose. Et le juge met fin à toutes ces opinions et prononce un jugement. Et ce jugement est valable pour tous. Et les gens retournent à la maison. Et leurs opinions ne sont plus valables. Et vous savez ce qui se passe lors d'un procès verbal? L'un se réjouit parce qu'il il s'est trouvé qu'il a eu raison. Et l'autre peut repartir avec ce qu'il pensait avoir eu comme raison. Mais si nous sommes des vrais enfants de Dieu, alors nous ne cherchons pas nos raisons. Et nous ne cherchons pas à avoir raison. Mais nous voulons que Dieu ait raison et qu'il reçoive ce qui lui revient de plein droit. Nous ne nous rassemblons pas pour dire, oui, ce frère avait raison et ce frère n'avait pas raison. Non, que cela soit loin de nous. Ici, ce ne sont pas des procureurs. Ici, ce ne sont pas des gens qui tordent le droit. Ici, il y a des hommes qui veulent écouter la parole de la vérité. Et ils ont un droit devant la plus haute autorité, le plus haut juge, de recevoir la bonne réponse. Et nous en sommes reconnaissants. Nous l'avons reçu. Alléluia. Que loué soit notre Dieu pour cela. Maintenant, je vais vous lire encore une parole de Dieu. Alléluia. Oh, je pourrais embrasser la Bible. Elle est précieuse pour moi. Et précieuse pour moi est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas la parole originale de Dieu? Ici, nous l'avons. Ici, dans la Bible, et nous en sommes reconnaissants. Mais justement, cette parole ici, dans Apocalypse chapitre 1, est si merveilleuse. Christ, qui comme fils de l'homme, par le signe du Messie, pendant tant d'années, s'est révélé, s'est manifesté dans le service de Frère Branham. Ici, dans Apocalypse, il est montré, Jean le voyait. Peut-être que nous lisons le premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes. Je termine tout de suite seulement deux pensées. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, que Dieu lui a donné, pas ici en majuscule, mais en minuscule, faisant référence à Jean, que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et maintenant arrive. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes. C'est de la même manière, tel que Jean sur l'île de Patmos, en esprit, de la part de Dieu, a reçu. Il lui a été montré de la part de Dieu toutes ces choses. C'est ce qui s'est passé avec frère Branham. Il était un voyant. Il était un prophète. Et Dieu l'a utilisé pour nous transmettre, nous montrer, nous faire connaître ce qu'il a reçu comme révélation de Dieu. Je lis encore le verset 12 seulement. Puis je me retournais et je voulais chercher à voir la voix qui me parlait. Apocalypse 1, verset 12. Et quand je me retournais, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Est-ce que vous remarquez jusqu'à où est-ce que ça va? Le passage de fils de l'homme au juge qui allait jusqu'aux pieds et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Mais sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du minerai d'or, comme s'ils avaient été chauffés au rouge dans une fournaise. Et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu, est fils de l'homme, est fils de David, est roi, sacrificateur et prophète. Il est avocat et médiateur, mais il est aussi juge, car c'est ainsi que c'est écrit. Tout le jugement a été remis au Fils. Et c'est ainsi que nous l'avons entendu de ce que frère Branham a exposé. Il se montre comme juge. Et il veut, toi et moi, nous laisser savoir que dès maintenant, dès lors, il a parlé. Et nous avons à nous taire et à seulement recevoir ce qu'il a dit. Et à le recevoir comme ainsi dit le Seigneur. Le laisser valable en tant que ainsi dit le Seigneur. Ne l'oubliez pas. Nous allons être jugés selon la parole qui a été annoncée et proclamée depuis l'ouverture des sceaux. Peut-être que vous ne comprenez pas ça encore ici aujourd'hui. Aussi le Seigneur a parfois fait des expressions que ses disciples n'ont pas tout de suite compris. Mais laissez-moi dire cela pour encore souligner cela. Celui qui pense qu'il peut se retirer, s'en sortir, parce que de tout son cœur, il ne peut pas suivre ce qui a été dit, ce qui est prêché. Alors, retire ton masque de religieux, laisse-le tomber et laisse-toi de la part du Seigneur t'accorder un nouveau cœur et un nouvel esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Après l'ouverture des sept sceaux, les choses sont devenues sérieuses. Nous allons peut-être, si Dieu le permet, demain continuer. Est-ce que aussi frère Branham n'a pas dû se laisser corriger lui-même? Est-ce que lui-même, après l'ouverture des sceaux, il ne s'est pas corrigé lui-même? Est-ce qu'il n'a pas dit, ça je l'aurais dit autrement, maintenant si le Seigneur ne m'avait pas corrigé depuis ce temps, il y a eu un changement. Et Dieu veut aussi que nous puissions respecter tout ce qui a été dit et exposé depuis l'ouverture des sceaux. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter parce que c'est la parole du Seigneur, les prédications tenues depuis le voiture de sceau. Et on doit, c'est vrai, comparer tout avec la Bible, avec les Écritures. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne l'a pas fait? Est-ce que vous pensez que le frère Branham lui-même ne l'a pas fait? Non. De Moïse jusqu'à l'Apocalypse, tout dans l'équilibre, dans la clarté divine, a été exposé. Il n'y a pas un verset ici et ensuite est renversé sur la tête, mais tout résumé dans la clarté divine, redonné. J'ose même dire, le Seigneur qui est descendu dans la nuée pour montrer la finalité contraignante de ce qu'il révélerait et dirait, il veut que nous puissions lui apporter tout le respect et la sainte crainte. Dieu le Seigneur a parlé. Qui ne devrait pas écouter? Est-ce que nous voulons Nous voulons dire ce qu'il a dit. Et c'est seulement à ce moment-là que nous sommes en accord et en conformité avec lui. Il ne s'agit pas de ce que toi tu sois en accord avec moi et moi avec toi. Aujourd'hui, il s'agit d'une seule chose. Est-ce que nous sommes tous, toi et moi, est-ce que nous sommes, et encore beaucoup d'autres, est-ce que nous sommes en accord avec ce que le Seigneur a dit? Heureux les hommes qui peuvent dire Amen à tout ce que le Seigneur a dit. Un tel homme n'a rien à craindre. Il a le sceau de Dieu et sait que il passera de la foi à la vue. Mais celui qui ne peut pas croire ce que Dieu a dit, qui doit encore demander, mais pourquoi est-ce que maintenant il a exposé cela comme ça? Je vous demande, si cela est encore ainsi dans vos cœurs, il faut que cela change. Nous avons besoin d'être mis au même niveau que Dieu pour marcher avec lui. Et cela est seulement possible si chacun abandonne ses propres opinions dans les choses divines et les domaines divins pour mourir avec Christ et ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie et pouvoir être accordé avec sa parole et avec lui. C'est à ce moment-là seulement que nous serons un seul cœur, une seule âme. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu pourra se manifester. Alors, viendra ce jour qui n'a jamais existé auparavant, que Dieu, parmi son peuple, se confirmera, se manifestera et se glorifiera. Notre Dieu est un grand Dieu. Que son nom soit loué. Amen. Levons-nous pour la prière. Si vous le croyez, dites Amen. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta fidélité. Nous ne sommes pas dignes de ce que tu nous as agréé, de ce que tu parles avec nous et que tu nous introduis, nous insères dans les mystères de ta parole. Nous te voyons comme fils de Dieu, comme sauveur, comme rédempteur. Nous te voyons comme fils de l'homme, comme prophète. Nous te voyons comme la plus haute autorité finale, comme juge. Seigneur fidèle, nous te remercions de ce que tu nous montres les contextes et comment est-ce que tout est relié. En ce qui nous concerne, tu es rédempteur, tu es sauveur. En ce qui concerne ta parole, c'est ainsi que tu as parlé de manière contraignante. Final, tu as donné ta dernière parole, ton dernier mot. Et après cela, il n'y a plus rien. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que tu as eu le dernier mot. Et plus personne ne peut ajouter quelque chose et retrancher. Seigneur, que tu puisses faire grâce à ton troupeau racheté par le sang. Que tu puisses nous aider à ne pas avoir de manquement. Parce que rien ne nous manque et être obligé de rester. Mais que nous puissions aller de l'avant dans la foi et prendre part à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Accorde-nous aussi un jour particulier qui n'a jamais existé auparavant. Ô Seigneur, le jour est proche. Ce jour est proche. Nous te remercions pour cela. Bénis-nous ensemble et accorde-nous ta grâce pour que nous puissions nous soumettre sous ta main puissante, nous courber sous ta main puissante, car le jugement commence dans la maison de Dieu. Et là, ce n'est pas un qui juge l'autre. Tous s'assied et écoute qu'une seule voix, la voix du juge. Ô Seigneur fidèle, au jugement dernier, tu jugeras aussi. Et c'est-à-dire cette génération, tu jugeras cette génération d'après ce que tu as dit maintenant et tu as révélé dans la génération. Bien-aimé Seigneur, laisse-nous reconnaître et accorde-nous ta grâce pour que nous puissions comprendre aussi que ce jour dans lequel nous vivons est un jour particulier. Nous te remercions. Alléluia. Loué et honoré soit ton merveilleux et glorieux nom. Seigneur, que tu puisses remplir ton peuple de reconnaissance et de joie, parce que nous nous sommes dirigés d'après ce que tu as dit et révélé. Nous sommes prêts à recevoir et à suivre ce que tu as dit et ce que et le jugement que tu as prononcé, et à nous soumettre et à l'accepter. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as conservé ta main sur nous et que nous n'avons pas dévié à droite et à gauche ou à gauche, mais nous sommes restés dans ta sainte présence et tu parles encore avec nous. Nous sommes restés dans ta parole et tu as le dernier mot. Et c'est ainsi que cela doit rester jusqu'à la fin. À toi le Seigneur, le roi de tous les rois, à toi soit toute la reconnaissance et que nous puissions dire comme Paul disait, désormais la couronne m'est réservée que le juge juste m'accordera en ce jour. Pas le roi, mais le juge. Ô Seigneur, comme c'est merveilleux, comme merveilleuse est ta parole. Mon cœur loue, mon cœur exalte, tressaille de joie, quoiqu'il y a des douleurs dans mon âme à cause de beaucoup de frères et sœurs. Mais Seigneur, tu accorderas une visitation divine aussi comme dans le temps de Job. Tu prépareras une table garnie pour que nous puissions nous réjouir quand tu auras tout restauré et te remercierons pour la double portion, pour la restauration de tout ce qui s'est perdu. Oh Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, à toi soit la louange, la gloire et l'honneur au Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.